Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce vendredi 12 février 2021. J'ai l'honneur de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. La phase finale de l'exercice militaire baptisé Grand Prophète 16 des forces terrestres du CGRI s'est déroulée jeudi 11 février. Des opérations de simulation anti-infiltration et héliportées ont été effectuées. En Irak, un convoi transportant des équipements militaires pour l'armée américaine a été pris pour cible jeudi à Bagdad et Moscou se dit prête à rompre ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. La phase finale de l'exercice militaire baptisé Grand Prophète des forces terrestres du CGRI a commencé le jeudi matin avec la présence du commandant-chef du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Hossein Salami, le commandant-chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Mahmoud Pakpour et un groupe de commandants fonctionnaires et d'experts du quartier général de Khatam al-Abiya et de l'état-major général des forces armées et du CGRI dans la zone générale du sud-ouest de l'Iran. Des opérations de simulation, anti-infiltration et héliportées ont été effectuées. Des opérations offensives, anti-infiltration des forces blindées et d'infanterie et des frappes aériennes nocturnes étaient au menu de cette édition des exercices Grand Prophète qui réunissaient les unités d'élite, la division blindée, l'unité balistique des drones et de cyberguerre des forces terrestres et aériennes du CGRI. Un convoi transportant des équipements militaires pour l'armée américaine a été pris pour cible jeudi 11 février dans la province de Bagdad, ont annoncé des sources irakiennes. C'est la énième fois que les troupes américaines stationnées en Irak sont prises pour cible par des groupes de résistance irakiens. Des sources d'information irakiennes dont Saberi News ont annoncé qu'un convoi logistique de l'US Army a été abattu dans la ville d'Al-Latifia, dans la province de Bagdad. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque. La veille, des sources ont rapporté qu'un groupe de résistance nommé Rassim al-Jabarin avait revendiqué une attaque contre un convoi militaire américain dans la province de Bagdad. Ces derniers mois, les attaques contre l'armée américaine en Irak sont devenues quasi quotidiennes. Les troupes étrangères entrent en Irak depuis la frontière avec la Syrie à l'ouest ou la frontière avec le Koweït au sud. Ces derniers mois, les attaques contre l'armée américaine en Irak sont devenues quasi quotidiennes. Les Irakiens exigent le départ définitif des troupes américaines de leur patrie. Le mouvement Ansarallah a lancé jeudi soir une attaque au missile sur une base aérienne dans la région sud-ouest de l'Arabie saoudite d'Asir, a annoncé le porte-parole des forces armées yéménites. Le général de brigade Yahya Salih a déclaré que le missile avait frappé avec précision les cibles désignées dans la base aérienne du roi Khalid, située à 884 km au sud de la capitale saoudienne Riyad. Un membre du Conseil politique suprême du Yémen a déclaré que les aéroports saoudiens étaient utilisés à des fins militaires dans la guerre contre le Yémen. Le général Salih a déclaré que le missile balistique sol-sol utilisé dans l'opération était d'une nouvelle génération qui n'a pas encore été dévoilée. Le haut responsable yéménite a averti l'Arabie saoudite que les attaques de représailles se poursuivront tant que le régime de Riyad poursuivra son agression militaire, son blocus et ses raids contre le Yémen ravagé par la guerre. Les forces de l'armée yéménite ont également intercepté un véhicule aérien sans pilote de l'armée saoudienne survolant la province centrale du Yémen, Ma'rib. Moscou se dit prête à rompre ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. La Russie est prête à rompre ses relations diplomatiques avec l'Union européenne si ces dernières adoptent des sanctions créant des risques pour les secteurs sensibles de l'économie, a déclaré le vendredi 12 février le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Nous y sommes prêts. Nous le ferons si nous voyons, comme nous l'avons senti plus d'une fois, que des sanctions sont imposées dans certains secteurs qui créent des risques pour notre économie, y compris dans des sphères sensibles. Nous ne voulons pas nous isoler de la vie internationale, mais il faut s'y préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. Lavrov a déclaré que l'Union européenne n'est pas un partenaire fiable, du moins au stade actuel. Mardi, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a recommandé l'adoption de nouvelles sanctions après l'affront subi lors de sa visite à Moscou la semaine précédente, pendant laquelle trois diplomates européens ont été expulsés pour s'être ingérés dans les affaires intérieures russes. Si vous êtes tellement préoccupé par les droits de l'homme et le traitement des manifestants, il est nécessaire de regarder également les images que nous avons données à nos collègues suédois ainsi qu'à Bruxelles à la veille de la visite actuelle. Regarde-les, ils montrent comment un policier conduit sa jeep sur les manifestants, gisant par terre et bien d'autres choses. Le monde entier a vu des images, comment une jeune femme a été pressée contre le mur par un jet d'eau d'une lance d'incendie aux Pays-Bas, après quoi elle a quitté l'endroit couvert de sang, a réaffirmé le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence presse du 5 février. Jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également fait savoir « Je voudrais mettre en garde nos partenaires européens sur toute nouvelle démarche inconsidérée. Elle sera suivie inexorablement, comme vous le comprenez, d'une réponse proportionnée. » Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours à Paris. Placée sous le signe du renforcement de la coopération et de l'amitié entre les deux pays, elle s'inscrit dans le cadre de leurs relations continues et sera composée de plusieurs étapes, selon l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya. Lors de la rencontre avec le président français Emmanuel Macron prévue ce vendredi, seront identifiées de nouvelles pistes de réflexion pour renforcer la coopération entre les deux pays étendue à tous les secteurs de développement, a précisé le diplomate interrogé par la chaîne publique djiboutienne RTD. Durant son séjour parisien, M. Guelleh rencontrera également les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que le président du Sénat. Le premier accord de coopération décentralisé entre la France et Djibouti sera aussi paraffé lors de cette visite qui sera marquée également par la signature d'accords sur l'enseignement supérieur et la recherche, les énergies renouvelables et l'hôtellerie. L'attaque menée mercredi contre le camp temporaire de la MINUSMA au centre du Mali a fait 28 morts chez les casques bleus du contingent togolais de la mission, a annoncé jeudi le porte-parole de la mission onusienne, Olivier Salgato. L'attaque a été menée par des éléments armés non identifiés avec un véhicule suicide conduit par un kamikaze contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Mali MINUSMA, a indiqué M. Salgado. Selon lui, la mise en place de cette base temporaire vise à réduire les violences sur les populations, à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées et à réduire la menace des engins explosifs improvisés. mercredi matin, vers 7 heures, hors local, une base temporaire de la MINUSMA à Kerena, située dans les environs de Duenza, a été la cible d'une attaque. Selon une première évaluation, une vingtaine de casques bleus ont été blessés. La MINUSMA a été déployée en 2013 au Mali. Un accord de paix soutenu par l'ONU en 2015 entre le gouvernement et divers groupes armés n'a pas réussi à stabiliser la situation dans les régions du centre et du nord du pays, les attaques se multipliant ces dernières années. 5 soldats de la MINUSMA ont perdu la vie en une semaine lors des attaques perpétrées en janvier 2021. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Le 7 février, une lettre importante du leader de la révolution islamique a été remise par le président du Parlement iranien au président russe. Sans tarder, les médias du monde ont commencé à émettre des hypothèses sur le contenu de la lettre au maître du Kremlin. Le site officiel du leader iranien a publié des parties des propos de Hossein Amir Abdollahian, assistant spécial du président du Parlement islamique d'Iran pour les affaires internationales, qui avait accompagné le président du Parlement lors de sa visite à Moscou. En voici un aperçu. Le leader de la révolution islamique d'Iran insiste toujours sur le fait que dans la diplomatie, l'Iran doit garder l'équilibre en menant la politique ni l'Est ni l'Ouest pour préserver son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale et maintenir ses relations avec l'étranger. La politique étrangère des pays doit être redéfinie dans ce même cadre. Le 21e siècle est sans aucun doute le siècle de l'Asie. L'Asie a toujours été au centre de l'attention de la République islamique d'Iran et nous devons accorder une attention particulière à notre continent et au maintien des relations équilibrées avec les autres pays du monde. En Asie et dans des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Malaisie, l'Indonésie et le sous-continent, il existe un important potentiel méconnu dont nous pouvons jouir étant donné nos affinités. En politique étrangère, afin de protéger les intérêts nationaux de notre pays, nous devons préférer l'Est à l'Ouest et nos voisins aux pays lointains. Il est évident que les relations avec les pays avec qui nous avons des intérêts communs sont prioritaires. Ce voyage, effectué dans une période sensible où de nouveaux locataires sont entrés à la Maison-Blanche, véhicule un message clair aux alliés régionaux de la République islamique d'Iran. Celui-ci ne sera plus affecté par les jeux de la nouvelle administration américaine ou des trois pays européens impliqués dans l'accord nucléaire, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et aucune décision de la Maison-Blanche ne changera les positions de la République islamique d'Iran envers le renforcement de ses relations stratégiques avec Moscou et Pékin et l'Asie en tant qu'acteur important de ce siècle. Le temps de l'Amérique et de l'Europe est fini. Les développements à la Maison-Blanche ne peuvent pas influencer les rapports de l'Iran avec ses alliés régionaux. On traverse une période sensible et le leader de la révolution islamique a ressenti le besoin d'envoyer un message au président russe.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure l'Arabie saoudite dans le processus des négociations sur un accord concernant le nucléaire iranien. Une position qui, selon de nombreux analystes, a peu d'avenir dans le cadre de ces négociations. En réaction à cette proposition du président français, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a rejeté en effet la participation de toute nouvelle partie, voire tout nouveau dialogue. Pour Khatibzadeh, en effet, l'accord nucléaire iranien est un document international multilatéral qui a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité et donc ne pourra pas faire l'objet de nouvelles négociations. L'Union européenne aussi a réagi à cette proposition d'Emmanuel Macron et a souligné que cette proposition en effet relevait de son opinion personnelle et a réitéré son engagement envers l'accord nucléaire de 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser en effet les principaux objectifs et enjeux de cette proposition du président français, de cette logique clientéliste en effet d'Emmanuel Macron concernant la participation en effet de Riyad aux négociations sur le nucléaire iranien. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le président français Emmanuel Macron estime que des alliés régionaux, y compris l'Arabie saoudite, doivent prendre part aux négociations d'un nouvel accord avec l'Iran, relate la chaîne de télévision Al-Arabiya. Le dialogue avec l'Iran sur un nouvel accord nucléaire sera strict. Il devra inclure les alliés de la France dans la région, y compris l'Arabie saoudite, a déclaré il y a une semaine le président français, dont les propos ont été repris par la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté samedi toute nouvelle négociation sur l'accord nucléaire ou modification de ses participants après que le président français Emmanuel Macron a déclaré que toute nouvelle négociation sur l'accord devrait inclure l'Arabie saoudite. Macron aurait-il oublié l'implication directe de Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Khashoggi et le massacre des civils au Yémen? L'accord nucléaire est un accord international multilatéral ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'est pas négociable et les parties sont claires et inchangeables, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, cité par les médias d'État. Les États-Unis se sont retirés de cet accord et l'Europe n'a pas été en mesure de le maintenir. Et s'il y a une volonté de relancer et de maintenir l'accord, la solution est simple. Que les États-Unis reviennent au PGAC et qu'ils lèvent toutes les sanctions imposées sous l'administration Trump, a-t-il affirmé en appelant le président français à faire preuve de retenue. En effet, à peine quelques heures après l'investiture de Biden au poste du président US, les coups de fil de Riyad à Paris se sont soudain multipliés. S'il est vrai que les relations Riyad-Paris sous l'ère de Trump ne sont jamais allées au-delà de colossaux contrats d'armement destinés à massacrer les Yéménites, les choses commencent à changer sous Biden. Certes, le nouveau président américain veut un accord nucléaire balistique avec l'Iran, auquel Téhéran a répondu en mettant le cap sur l'uranium à 90%, mais Biden veut cet accord sans tenir compte de ces milliards de pétrodollars dépensés ces quatre dernières années par Riyad dans le strict objectif de mettre au pas l'Iran. Les propos d'Emmanuel Macron ont suscité une vague de réactions. Les politiciens et les journalistes qui ont invité le président français à aborder en priorité l'affaire de l'invasion du Yémen par l'Arabie saoudite plutôt qu'à envisager d'intégrer Mohamed Ben Salman au P5+1. Pour eux, la région est aujourd'hui plus menacée par le wahhabisme que par le programme nucléaire pacifique de l'Iran.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Monsieur Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas, maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Luc Michel.
Alors, dans sa dernière prise d'opposition sur le nucléaire iranien, le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure ses partenaires régionaux, en l'occurrence l'Arabie saoudite, dans le processus des négociations sur le nucléaire iranien. Une proposition surprenante de la part de la France, d'Emmanuel Macron, car jusqu'à présent, aucun des acteurs, en effet, n'avait avancé une telle proposition. À quelle logique obéit cette proposition de la France d'Emmanuel Macron, maître Develet ?
Écoutez, je pense qu'il faut y voir deux ou voire trois explications possibles. La première, c'est pour des raisons de politique intérieure. Les choses ne vont vraiment pas très bien en France, la France d'Emmanuel Macron. Un déficit démocratique, un rapport officiel, semi-officiel a d'ailleurs été publié il y a quelques jours, qui qualifie la France, je cite, de « démocratie défaillante ». Donc c'est une opportunité pour Macron, quelque part, de rehausser son standing, son statut, de se rendre à nouveau pertinent dans l'arène des relations internationales. Et ça ne mange pas de pain, entre guillemets. Donc, quelle que soit la réaction qui puisse en découler, ça lui permet de continuer à communiquer, puisque c'est ce qu'il fait avant tout, il communique. La deuxième raison, c'est certainement les craintes à Riyad de la nouvelle administration américaine. Et ce faisant, on peut penser que la direction saoudienne a sollicité Paris pour essayer de se présenter comme un partenaire fiable qui puisse faire perdurer, si je puis dire, la relation de longue date qui existe entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On sait que Joe Biden, durant sa campagne, il a répété plusieurs fois qu'il tiendrait l'Arabie saoudite, si je puis dire, à certains standards. Donc c'est une façon pour effectivement le prince héritier d'essayer de se racheter une conduite, lui aussi à peu de frais. En ce qui concerne la proposition d'Emmanuel Macron sur le fond, de toute évidence, elle n'a aucun sens. La première, pour une simple et bonne raison, c'est un accord qui s'inscrit dans la boîte à outils du régime général de non-prolifération nucléaire. Donc, comment pouvoir évoquer l'addition, déjà, comme on dit en anglais, on its face, de d'acteurs régionaux supplémentaires, sans évoquer, avant toute chose, l'arsenal nucléaire du régime israélien. Ça n'a absolument aucun sens. En cela, je comprends parfaitement la réaction du officiel de la République islamique d'Iran, qui est de balayer cette proposition, entre guillemets, d'un revers de la main.
Merci pour ces précisions, maître Develet. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue Develet, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Maître Develet a évoqué, a rappelé la position officielle, la réaction officielle de la République islamique d'Iran à la proposition du président français. En effet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté M. Macron à s'abstenir de prendre des positions hâtives et mal avisées. M. Khatibzadeh a rappelé que là, il s'agissait d'un accord international multilatéral ratifié, confirmé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci étant dit, M. Michel, est-ce que cet accord pourrait faire l'objet de nouvelles négociations et faire l'objet de la participation, en effet, des partenaires, des alliés régionaux de la France, dont l'Arabie saoudite?
Il y a deux explications. Il y a tout d'abord une explication qui est purement le sabotage. On a un peu l'impression que toute une série de partis ne veulent pas du retour aux accords de Genève. Et l'Iran a été clair depuis le début. Il n'est pas question de renégocier, il n'est pas question d'accepter de nouveaux partenaires. Ça a été précisé comme étant des positions non discutables, non négociables. À partir du moment où on tente de les réintroduire sur la table, on repousse évidemment l'idée même de remettre en route les accords de Genève. Maintenant, il y a quand même quelque chose de plus profond que ça. Il faut tout d'abord savoir que les États-Unis et la France sortent d'une année de brouille due à la politique de Trump, en particulier en Afrique et en mer Rouge. Et dès lors, actuellement, les Français négocient avec les Américains. Ils négocient pour une nouvelle alliance, si on peut dire. Et dans cette optique, la France doit justifier la voie géopolitique. La France, déjà, a un axe, elle fait un axe avec les Émiratis. Ce sont deux puissances maritimes. Et la France, actuellement, se redéfinit, l'impérialisme français. Il y a un livre en particulier qui a théorisé cela. C'est le livre de l'amiral Condefi, qui est sorti il y a quelques mois. Et la France veut se repenser comme une grande puissance maritime. On se rappellera qu'elle a le deuxième domaine maritime mondial, avec plus de 10 000 kilomètres, ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Et donc, elle est liée aux Émiratis, qui sont eux-mêmes une puissance maritime émergente à la suite de la guerre du Yémen. Ils sont liés dans un axe Dubaï-Paris. Et bien entendu, la continuité de cet axe, c'est d'en faire un axe Dubaï-Paris-Riyad. C'est-à-dire d'étendre cette alliance maritime à une puissance continentale, puisque la péninsule arabique est en grande partie dominée, à part l'Iran, par les Saoudiens. On ne sait pas très bien ce qui, dans cette affaire, le dispute de la volonté de saboter ou pas. On se rappellera quand même que, quand on négociait les accords de Genève, c'était du temps de M. Fabius, on disait de Fabius qu'il était le représentant d'Israël, venu saboter les négociations à la table de négociation. C'est un mois plus mon idée. Je ne sais pas s'il faut voir des grandes combinaisons géopolitiques. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une part de vanité et que cette vanité de Macron est utilisée par des gens qui ne veulent pas d'accord.
Merci infiniment, M. Michel, pour ces éclairages. Restez avec nous. Maître Develay, selon certains observateurs, M. Macron suit un double objectif en avançant une telle proposition. D'une part, satisfaire le client saoudien, qui est l'un des principaux consommateurs du savoir-faire français en matière d'armement. Et d'autre part, un moyen, en effet, pour la France de se positionner et de combler en partie le vide stratégique, géostratégique laissé par Washington. Votre commentaire, Maître Develay.
De toute évidence, la France cherche à rester pertinente sur le plan international. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de souveraineté politique nécessaires pour que sa parole porte dans l'arène internationale. Et donc, ce faisant, en étant toujours à la remorque d'intérêts étrangers ou d'intérêts transnationaux purement économiques, oligarchiques de par leur nature, la politique étrangère de la France, dans son décryptage, est devenue pour beaucoup d'observateurs très difficile à comprendre et donc elle est forcément amenée à être perçue avec méfiance. De toute évidence, c'est avant tout une question, comme le disait Luc Michel, de garder le client saoudien satisfait parce que, jusqu'à preuve du contraire, les quelques pays qui achètent encore du matériel français incluent dans leur listing l'Arabie saoudite, ce qui expliquerait peut-être pourquoi, effectivement, Macron a fait cette déclaration imprudente. Mais, encore une fois, je pense que c'est quelque part une illusion de penser qu'il y a une grande stratégie régionale en ce qui concerne la France. La France réagit un peu ad hoc, ponctuellement, dossier par dossier, en essayant toujours de se trouver un strapontin d'urgence pour pouvoir vendre quelques armes ici et là. Mais tant qu'elle n'aura pas récupéré une politique étrangère cohérente, à partir de là, si elle doit être cohérente, elle doit être avant tout souveraine, basée sur des intérêts objectifs. La France ne pourra pas déployer son influence d'antan.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, alors concernant la politique étrangère d'Emmanuel Macron et plus précisément sa politique envers le nucléaire iranien. Là, il paraît que cette politique contraste non seulement avec cette déclaration imprudente qu'on disait Maître Develay, contraste non seulement avec le droit international, avec la logique même de l'accord nucléaire de 2015, mais aussi avec la politique étrangère de l'Union européenne, parce que là, l'Union européenne a réagi, a estimé que cette déclaration relevait de l'opinion personnelle d'Emmanuel Macron et a réitéré son engagement, en effet, envers l'accord nucléaire. Alors, dans quelle mesure, par cette déclaration imprudente et surprenante, M. Macron, en effet, pourrait non seulement se remettre en cause la politique étrangère de la France, mais aussi révéler au grand jour, en effet, ses écarts avec l'Union européenne?
Écoutez, le problème de la France en Europe, c'est que la France n'a plus les moyens géopolitiques de la puissance qu'elle voudrait être. Dans les années 60, l'Europe a été construite sur un couple franco-allemand. Mais la réunification allemande qui a recréé une grande Allemagne en Europe a fait qu'elle a déséquilibré ce couple. Et aujourd'hui, face à l'Allemagne, mais aussi face à ce qu'on appelle les Américains, la Nouvelle Europe, les Polonais, les Roumains, etc., qui sont fondamentalement anti-français, la France pèse encore peu. Ce qui intéresse aujourd'hui la politique étrangère de la France, c'est essentiellement de tenir son rang en Afrique, puisque c'est la condition d'un résidu de puissance française. La France est contestée dans son ancien précaré, dans ce qu'on appelait la France-Afrique, mais contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent, la France ne s'est pas effondrée. Elle s'est redéployée en Afrique, elle est particulièrement active, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui est fondamentale pour les Français. Les Français viennent de s'installer au Mozambique, et ils ont battu économiquement les Américains. Ils sont en train de s'emparer des gisements de gaz du Mozambique. On parle de 14 milliards immédiats de production. Des usines, des investissements industriels sont prévus par les Français. C'est l'arrivée de la France dans une zone où elle n'était pas présente dans la côte de l'Afrique. À partir de ce moment-là, il faut, pour contrôler le Mozambique et en même temps tenir le rang vis-à-vis des Américains, parce que la percée économique française, elle s'est fait contre les Américains de ExxonMobil. Les Français ont besoin de l'alliance des Émirats. C'est la première chose. Mais derrière les Émiratis, il y a les Saoudiens. Si les Saoudiens n'étaient pas là, les Émiratis ne seraient pas une puissance. Il y a d'ailleurs une rivalité entre FBS et MBZ, Ben Salman et Ben Zayed. À partir de ce moment-là, l'intérêt de Paris, c'est de jouer le cavalier seul, c'est pas du tout de tenir compte des intérêts de l'Europe. La France est un peu concernée par, notamment par les intérêts de l'Allemagne en Europe, c'est de renforcer cette présence française en mer Rouge. Ça peut évidemment expliquer cette position. Indépendamment, je vous le dis, moi, personne ne veut l'idée. J'ai l'impression que, pas plus que les Israéliens ne veulent de retour aux accords de Genève, la France n'en peut pas mieux.
Merci encore, M. Michel. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, pourquoi aujourd'hui la voix de la France sur le nucléaire iranien est contestée? Pourquoi elle ne peut pas être entendue, même au sein des alliés européens de la France, d'Emmanuel Macron?
Écoutez, je pense que ça a à voir avec beaucoup de dossiers régionaux dans lesquels la France est impliquée et qui semblent être contradictoires dans la façon dont la France se positionne, tant sur les uns que sur les autres. Encore une fois, on en revient toujours à cette absence de grande vision de ce que la France doit être, souhaiterait contribuer. Et force est d'avouer que ces dossiers, ces positions contradictoires ont rendu beaucoup d'observateurs méfiants de la France quant à ce qu'elle représente et la façon dont elle est incarnée aujourd'hui. Donc, c'est là, pour faire court, la réponse à votre question. La France a abandonné son désir de puissance en tant que État souverain. Elle s'est remorquée à des lubies idéologiques et des visions utopiques de ce que l'Europe, l'Union européenne devrait être. Luc Michel l'a souligné, la Realpolitik l'a rattrapée et elle se retrouve maintenant dans une espèce de dissonance cognitive qui se traduit par effectivement des approches dossier par dossier qui ne laissent pas entrevoir une cohérence d'ensemble.
Monsieur Michel, il nous reste 2 minutes, très rapidement, s'il vous plaît. Quelles seront les retombées de cette position contradictoire de la France, de la politique étrangère de la France sur le plan régional et international?
Écoutez, la France est en train de plus en plus de s'isoler. Il y a un phénomène qu'on appelle l'arrogance française. C'est un fameux livre qui est sorti il y a quelques années. C'est un livre qui concerne l'Afrique. Mais en fait, la France a cette arrogance vis-à-vis de tous ses partenaires. Elle indispose, on sait que Mme Merkel est particulièrement indisposée par Macron. C'est cela qui se passe. La France, c'est une... elle est encore dans les rêves. Déjà du temps de Gaulle, elle avait de la peine à tenir son rang. Et depuis les années Mitterrand, les années Chirac, les années Sarkozy, les années Hollande, la France n'a jamais cessé de faire une glissade, une dégringolade géopolitique. Aujourd'hui, le roi est nu. Et les prétentions françaises à une grande puissance, elles sont contestées par la réalité. Ce que la France voudrait imposer des positions qu'elle n'a plus les moyens d'assurer. C'est cela qu'il faut comprendre, que ce soit dans le nucléaire iranien, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la guerre du Sahel, que ce soit face à la Russie, la France, c'est une puissance sur le déclin qui n'a plus les moyens d'exister.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Suite aux sanctions américaines contre l'Iran, la marque aux losanges Renault a proposé à plusieurs de ses cadres iraniens de venir travailler en France. Mais ces employés iraniens de Renault détachés en France savaient-ils qu'en acceptant l'offre de l'enseigne, leur famille ne pourrait pas les rejoindre ? Ils assurent que non et que la politique de la marque aux losanges consiste à faire de la rétention d'informations pour les mettre devant le fait accompli. Dans leur témoignage au point, quelques-uns des 114 salariés iraniens ont décrit le calvaire qu'ils ont vécu à cause des politiques de Renault. Comment analyser cette discrimination faite par cette société française contre ses salariés iraniens ?
Eh bien, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est les seules valeurs que l'Europe et que le monde occidental défend, c'est l'argent. Donc, quand l'argent prend le pouvoir, l'être humain ne compte plus. Donc, ces employés iraniens ont été employés comme de la main-d'œuvre bas de gamme, de la main-d'œuvre dont on se sert et qu'on jette quand on n'en a plus besoin. C'est tout bonnement scandaleux pour un pays comme la France qui se dit le pays des droits de l'homme. La France n'est plus du tout un pays des droits de l'homme, hein. Il faut arrêter de penser ça. L'argent a pris le pas sur le bon sens. Donc, je trouve dommage également qu'une société comme Renault, installée en Iran depuis très longtemps aujourd'hui, puisque l'Iran représente un très grand marché automobile, et aujourd'hui, on voit que Renault a lâché sous la pression du gouvernement français et sous la pression du gouvernement américain, a totalement lâché les salariés étrangers travaillant pour eux. Je pense que c'est une très grosse erreur, puisque Renault en payera le prix dans les années qui viennent, puisque l'Iran, comme je vous le disais, est un très grand marché pour l'automobile. Mais tout ceci arrange bien les États-Unis également, puisque le jour, si ça doit arriver, qu'il y ait une déstabilisation en Iran, les États-Unis ne laisseront pas Renault revenir en Iran. Ils préféreront, eux, placer leur propre voiture. Donc, c'est une politique très égoïste. C'est une politique pour affaiblir l'Europe, qui, d'ailleurs, va s'effondrer, tout comme les États-Unis dans les années qui viennent. Donc, je pense que c'est une très, très mauvaise solution qui a été retenue. Quant aux employés iraniens, ben, ils payent, je dirais, l'égoïsme et le manque d'humanité d'une société comme Renault. Et je trouve quand même que c'est un peu léger de la part d'une multinationale comme ce constructeur automobile de lâcher ses salariés. Mais vous savez, je peux vous rassurer sur un point, c'est que Renault pratiquera les mêmes sanctions vis-à-vis des salariés en France, hein, qui sont littéralement utilisés comme des mouchoirs jetables. Donc on utilise les gens quand on les a besoin. Et on les jette le jour où on n'en a plus besoin. Donc ça va bien avec la politique occidentale aujourd'hui. Je précise quand même que cette politique ne pourra pas durer encore très longtemps, puisque je pense qu'on va assister dans les 10-12 ans à un effondrement financier sans précédent et qui sera d'ailleurs la suite logique de la politique menée par des gouvernements incompétents et irresponsables depuis plusieurs décennies.
Pfizer ou l'idée de trop israélienne de suicide collectif. Le monde occidental accuse souvent les musulmans d'être générateurs de l'idée de suicide collectif. Force est de constater que c'est encore une propagande sioniste. En début de semaine, le New York Times a fait l'éloge de l'expérience israélienne de vaccination de masse. Pour une raison ou une autre, les médias israéliens ne sont pas aussi enthousiastes que le New York Times. L'avant-dernier jour du troisième confinement israélien, le site israélien le plus lu, Inet, a publié le titre suivant « Le spectacle d'un échec, le troisième confinement comparé au précédent. L'article dévoilait le désespoir de la duplicité de la stratégie et de la politique covidique d'Israël. Inet souligne que, malgré les promesses sans fondement faites par le gouvernement et son premier ministre, après 6 semaines de confinement, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Bien qu'Israël soit en train de mener la première expérience au monde de vaccination de masse, son taux de transmission du Covid est parmi les pires du monde occidental. L'article du Inet souligne que, demain à 7h du matin, le troisième confinement prendra fin 1 mois et demi après avoir été imposé. Et les données Covid sont bien pires aujourd'hui par rapport à la situation du début. Au point de départ du troisième confinement fin décembre, le taux de tests positifs était de 4,9%. Le nombre de patients hospitalisés dans un état critique était alors de 949. Le nombre de cas vérifiés était de 4010. Avant le durcissement du confinement, le 8 janvier, le taux de tests positifs était de 6,6%, le nombre de patients en phase critique de 949 et le nombre de cas vérifiés de 7644. Au plus fort du troisième confinement, le taux de cas positifs a atteint 10,2%. Le nombre de patients gravement malades est passé à 1203 et le nombre quotidien de diagnostics Covid a atteint 10114. Depuis lors, les chiffres ont légèrement diminué. Mardi, le taux de positivité était de 8,9%. Le nombre de patients était de 1101 et le nombre de cas vérifiés était de 7183. Même le nombre R, qui détermine si l'épidémie se propage, est remonté à 1 ces derniers jours. Le nombre combiné d'Israéliens vaccinés et de ceux qui se sont remis du Covid dans le passé aurait dû conférer à Israël une immunité collective relativement forte, suffisante pour vaincre le virus ou du moins réduire son taux de reproduction. Mais les faits sur le terrain suggèrent tout le contraire. Le taux de transmission en Israël est plus élevé qu'à peu près partout ailleurs. En fait, la corrélation troublante entre la vaccination de masse et la maladie suggère que plus on vaccine, plus on trouve de cas de Covid. Comme si cela ne suffisait pas, il n'y a que 2 villes qui soient considérées comme des villes vertes libérées du Covid. L'une de ces villes est Rahat, une municipalité bédouine palestinienne où la campagne de vaccination est généralement ignorée. Les Israéliens peuvent également constater que parmi les communautés vertes Covid, les villes et villages arabes israéliens sont largement surreprésentés. Là encore, cela peut être lié à leur mépris général pour le vaccin. En bref, si nous tirons des enseignements de l'expérience israélienne, il est peut-être possible de conclure que moins vous vaccinez, plus votre communauté est en bonne santé dans son ensemble. En Israël, les services de renseignement des forces armées, donc les Haman, dirigent également une unité de recherche indépendante sur le Covid qui estime les risques imposés par la situation et évalue les stratégies pertinentes. L'Aman a publié son avertissement selon lequel, dans les semaines à venir, une forte augmentation des cas est attendue suite à la fin du confinement et à la propagation rapide du mutant britannique. L'Aman souligne que plus que jamais, la responsabilité personnelle et le respect des directives sont nécessaires. En décidant de se faire volontairement le terrain d'essai de Pfizer, les Israéliens apportent une connaissance inestimable du vaccin et des risques que comporte la vaccination de masse Covid. Si, par exemple, nous constatons dans les prochaines semaines que les renseignements fournis par les forces armées se sont trompés dans leurs prévisions et qu'il n'y a pas de changement significatif dans le nombre de cas ou de décès, nous pourrons peut-être conclure que ce n'est pas la distanciation sociale, mais probablement le vaccin lui-même. Si la morbidité est réduite et que le nombre de cas diminue, nous pourrions même envisager la possibilité que l'intégration sociale, autrement dit le retour à la vie normale, réduise réellement la transmission. Si le nombre de cas augmente fortement comme le prévoient les forces de défense, nous pourrons peut-être en conclure que le vaccin a eu un très faible impact sur l'immunité de troupeaux israéliens. En fait, la campagne aurait été le spectacle d'un échec. Ceux qui connaissent l'histoire juive devraient être conscients du rôle et de la place importante des récits de suicides collectifs qui ont façonné l'histoire juive dans le passé. L'Ancien Testament console les Juifs en leur disant « Que tes destructeurs et tes bourreaux sortent de toi » Ésaïe 49:17. La plupart des Juifs ont tendance à appliquer cette observation divine aux dissidents juifs, mais l'histoire juive peut au contraire suggérer que ce sont les dirigeants juifs acceptés, tant politiques, spirituels que religieux, qui ont souvent conduit leur peuple sur les chemins les plus désastreux et les plus tragiques.
à qui Téhéran